13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent Dehausset.
Nous sommes le 28 février 1854 à Bruxelles. C'est dans un relatif anonymat que décède celle qui, des années durant, inlassablement, aura porté le combat pour améliorer la condition féminine par le biais de l'éducation. Elle voulait non seulement réformer le système, mais aussi les esprits, et notamment celui des femmes, car, disait-elle, ce sont les femmes qui sont leurs propres ennemies, qui façonnent les chaînes dont elles se chargent, qui entretiennent les préjugés dont elles se tyrannisent. La postérité l'a souvent confondue avec sa fille, Isabelle, qui reprendra le flambeau. Cette féministe, avant l'heure, s'appelle Zoé Gatti de Gamont.
Certains penseurs, soi-disant modernes, prétendent que l'on devrait élever les filles comme les garçons. La femme serait, selon eux, aussi intelligente que l'homme.
Un jour dans l'histoire.
Voilà, le ton est posé ici avec un extrait d'un spectacle qui s'appelle L'éducation des jeunes filles. Et pour évoquer le parcours de Zoé Gatti de Gamont, avec nous Valérie Piette de l'ULB. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors on va remettre les choses en place, hein, parce que Isabelle Gatti de Gamont reste une grande féministe, une spécialiste de l'éducation elle aussi, mais elle a grandi dans un terreau très fertile, hein, donc on va revenir sur la figure maternelle, ô combien importante, Zoé de Gamont, elle-même très engagée dans l'attention portée à la condition féminine au 19e siècle. Alors, quel terreau pour Zoé, quel milieu social?
Oh, pour Zoé, un milieu social parfait, quasi un milieu libéral. Ouais. Son papa étant des cofondateurs de l'ULB, Pierre-Joseph de Gamont, il donne des cours en droit. Donc c'est un milieu libéral, aisé, bruxellois, après Anvers, et un milieu politiquement relativement engagé.
Avec une mère aussi qui est engagée.
Isabelle de Lodos, oui, une mère engagée qui tient salon, ouais, à Bruxelles et qui donc fait connaître à ses filles une culture extrêmement importante.
Elle est née en 1806, Zoé, alors, et sa sœur Élise, elles vont grandir donc sur ce terreau. Il y a une vision du monde, on l'a compris, c'est un milieu où on s'engage pour l'amélioration de la condition humaine. Elles vont se rallier aux idées de Saint-Simon et de Charles Fourier. Alors, dans un premier temps, Saint-Simon, il y a du pour, il y a du contre pour Zoé.
Oui, il y a du pour, il y a des contre. Elles sont révolutionnaires, elles sont attirées par cette nouvelle philosophie, cette nouvelle doctrine qu'est le saint-simonisme. Et Saint-Simon va mettre en avant la question de la femme, donc c'est déjà quelque chose d'important, oui, au-delà de la pauvreté, dans le changement de société, qui est vraiment important. Mais aussi, donc, elles vont d'abord être saint-simoniennes, et puis, peu à peu, elles vont s'en dégager du saint-simonisme, car Saint-Simon a aussi mis en avant ce qu'on a appelé plus tard l'amour libre, d'une certaine manière, ou en tout cas, des idées très libérales sur les mœurs de l'époque. Et donc elle va peu à peu s'en dégager pour arriver à un autre socialisme, pré-socialisme utopique, le fouriérisme.
Charles Fourier, qui est né lui à Besançon en 1792, alors lui il est très différent de Saint-Simon, ou il reprend, ou c'est la même mouvance, je dirais.
Ça fait partie de ces utopies, de constat d'une société qui ne va plus suite aux prémices, et plus que prémices, de la révolution industrielle, mais il va mettre l'accent beaucoup plus sur la coopération et notamment sur cette idée de phalanstère, de vivre en communauté, là aussi, hein, ouais, un siècle avant ou plus, cette idée de vie en communauté.
Et on verra que les phalanstères, ce sera une époque tragique pour Zoé plus tard. Alors la mère de Zoé meurt en 1829. Zoé et sa sœur ont acquis donc cette réputation de femme qui l'ouvre déjà. Hein. Elles vont à leur tour tenir salon deux fois par semaine. Il faut maintenant replacer peut-être le contexte général sur le plan politique et social. C'est une période de conservatisme dans toute l'Europe.
C'est une période révolutionnaire, 1830, ouais, en Belgique, évidemment, mais aussi c'est une période révolutionnaire ailleurs, en France, 1830, mais aussi en Italie, en Pologne, mais c'est des révolutions manquées. Donc il y a un conservatisme qui revient dans ces pays, et donc beaucoup d'exilés d'ailleurs qui arrivent chez nous.
On reparlera de l'importance des exilés également. Sur le plan des conditions sociales, c'est une période évidemment très, très difficile. Hein.
Très difficile, bien sûr. C'est la nouvelle classe ouvrière prend de plein fouet, d'une certaine manière, les conséquences de la révolution industrielle. Donc oui, c'est une pauvreté importante, des conditions de travail difficiles et une société qui a complètement basculé de camp d'une certaine manière, qui vient d'une société plus féodale et qui rentre dans une société plus moderne, mais aussi avec les conséquences, ouais, sociales qui suivent.
Malgré donc cette prospérité économique, une société toujours régie par le fameux code Napoléon.
Tout à fait, qui est depuis peu en fait régi maintenant par ce code Napoléon, mais qui est régi par le code Napoléon, le code civil et le code pénal, et le code civil évidemment qui considère que la femme mariée est une éternelle mineure.
Alors il faut souligner que la Belgique à cette époque est aussi une terre d'accueil pour les exilés. Qui viennent d'où ces exilés ?
Et ils viennent d'un peu partout, d'Allemagne, de France. La Belgique a toujours été une terre d'accueil, mais certainement dans ces années-là, de Pologne et d'Italie surtout. Alors la Pologne a une petite histoire par rapport à la Belgique, c'est que quand la Belgique fait sa révolution en 1830, les Polonais se soulèvent en même temps, et le tsar veut venir sauver Guillaume Ier d'Orange et veut envoyer ses troupes. Et puis la Pologne se révolte, et d'une certaine manière, les troupes tsaristes russes vont mater la révolution polonaise, donc on leur doit une fière chandelle d'une certaine manière, mais ça va finir pour les Polonais dans un bain de sang. Et donc, il y a beaucoup de Polonais qui arrivent en Belgique, mais aussi en France, évidemment. On dit que Paris est un peu une Varsovie à l'époque. Hein.
Et d'ailleurs, ils passent par Paris et plus tard, ils se feront éjecter de France également.
Tout à fait, parce que la France a un régime plus dur que la Belgique. Et donc, tous ces réfugiés, enfin beaucoup de ces réfugiés, arrivent en Belgique où il y a dans les milieux progressistes, libéraux, il y a une véritable solidarité avec ces exilés.
Voilà, nous sommes avec Valérie Piette. On évoque le parcours de Zoé Gatti de Gamon. Qui est encore là où on en parle, Zoé de Gamon.
Non, non, ça ne va pas du tout. Chut, Isabelle, chut. Meunier, qu'est-ce que tu fais ?
Je dors.
Il faut savoir être à l'écoute. Aujourd'hui, nous avons travaillé une chose facile, Die Sonnenartigste Gefahrtlust, so de Schubert. Et demain, nous travaillerons les Beatles.
Les Beatles.
Les Beatles.
Voilà, pour sourire, un extrait des Inconnus, un sketch sur l'éducation. Nous sommes avec Valérie Piette sur le parcours, sur les traces de Zoé de Gamon, qui va devenir Zoé Gatti de Gamon. Alors, elle évolue parmi les intellectuels progressistes. Elle publie des articles dans des revues encyclopédiques, dans la revue encyclopédique belge, ou dans l'Artiste, bien encore dans une revue italienne, L'Exilé. Elle y est critique d'art, critique littéraire. Elle a une passion pour la culture italienne, hein, Zoé. Ce sera important aussi, on va le voir pour elle plus tard. Elle participe au comité pour les réfugiés politiques, érigé en 1830, et puis en novembre de la même année, en 1833, et en novembre de la même année, elle prend la tête d'un comité de dames bruxelloises. Ça peut faire sourire, on va voir que c'est beaucoup plus sérieux que ce que ça fait penser, mais c'est quoi ce comité, Valérie Piette ?
Mais c'est le pendant féminin de ce comité de solidarité avec les exilés et les réfugiés. Et donc, on y retrouve véritablement toutes les progressistes bruxelloises de l'époque qui vont entourer Zoé de Gamon pour lancer des loteries ou d'autres, pour trouver de l'aide matérielle aussi à ces réfugiés.
Elles organisent des expositions, elles vendent le produit de leur artisanat, en quelque sorte.
Oui, oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment une loterie, comme on en connaît encore.
Alors, quelles sont celles qui les soutiennent le plus favorablement, c'est quoi ? C'est la classe aisée ou pas seulement ?
Mais c'est surtout un mouvement qui existe au sein d'une bourgeoisie ou d'une petite bourgeoisie adepte aux idées libérales. Donc oui, c'est surtout cette bourgeoisie dans un milieu aussi de l'éducation, beaucoup d'enseignants, de professeurs, d'artistes qui soutiennent, et d'hommes politiques, dont Charles Rogier, évidemment, qui va devenir un des ministres de cette Belgique et qui lui aussi a été partisan d'idées très progressistes à l'époque.
Beaucoup d'Anglaises les soutiennent. Pourquoi les Anglaises ? Il y a une raison historique ?
Oh, les Anglaises sont fort présentes en Belgique, elles l'ont toujours été au 19e siècle, elles sont peut-être déjà un peu plus émancipées que les Belges. Certaines d'ailleurs, une des meilleures amies de Zoé de Gamon, c'est Zoé Parent qui va épouser Hégé, le fameux Paul Hégé, qui va ouvrir un pensionnat qui est devenu mondialement célèbre puisque c'est là où les sœurs Brontë vont passer du temps et vont évidemment écrire cette histoire d'amour d'ailleurs un peu impossible avec Paul Hégé.
Alors, leurs initiatives vont faire des émules, hein. Ça va toucher d'autres régions du pays, et notamment le Nord.
Oui, oui, notamment le Nord. Donc il y a vraiment là une évolution envers Gand, Liège. Toutes ces villes sont touchées par les idées de Zoé, qui devient quand même un symbole d'une lutte mi-politique, mi-sociale, mais une lutte importante.
C'est ça, il faut bien se rendre compte que c'est un personnage, quoi, c'est une sorte de people de l'époque, enfin c'est un personnage connu, un vide de l'époque.
People, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, connue par les contemporains, ouais. qui agit, vue aussi comme une... On l'a traitée de prêtresse saint-simonienne à une époque, comme une révolutionnaire, mais comme quelqu'un qui écrit. C'est rare qu'une femme écrive à l'époque, qui écrit, qui pense.
Ouais. Alors, c'est probablement durant cette expo de 1834 qu'elle va faire deux rencontres importantes. La première nous vient de Pologne. Alors, c'est Jan Chiński, qui est-il ?
Alors, c'est un Polonais qui a donc fui la Pologne, qui va devenir un des meilleurs amis de Zoé, qui partira, lui, vers la France par la suite, et qui est aussi un disciple de Fourier. Donc, ils vont vraiment se tenir très longtemps, et on verra qu'il y a peut-être des liens avec Isabelle par la suite. Mmh. Donc, ça, c'est la première rencontre importante à ce moment donné-là.
Et puis, le peintre italien Jean-Baptiste Gatti, elle va l'épouser le 18 mai 1835, un mois après le décès de son père. Alors, lui aussi, un exilé et quelqu'un qui fuit son pays pour raison politique.
Là aussi, il fuit, il arrive en Belgique en 1832. Giovanni, on dira Jean-Baptiste par la suite. Gatti, qui est en plus à lutter contre le pape en Italie, ouais. Qui fuit en fait aussi l'Autriche, et le pouvoir autrichien, et qui vient en Belgique où il sera accueilli. Il est peintre, il est dessinateur. Il va d'ailleurs même peindre en portrait de Léopold Ier. C'est pas rien. Il est aussi extrêmement pauvre, parent inconnu, orphelin, il n'a pas de fortune, et donc peut-être que ça explique pourquoi le mariage s'est déroulé en mois après le décès du père de Zoé de Gamont, car la famille de Gamont était une famille extrêmement connue, réputée, ouais. et relativement aisée à Bruxelles.
Et donc Jean-Baptiste Gatti va travailler dans l'institut bruxellois qui était fondé par un autre Italien, c'est
l'Institut Gaggia, et il faut savoir qu'à l'époque il y a véritablement des idées très novatrices en termes de pédagogie, notamment cet institut Gaggia, mais essentiellement pour les garçons.
Alors en 1834, Zoé Gatti de Gamont donc, publie un ouvrage qui a à faire date, qui est de la condition sociale des femmes au 19e siècle et de leur éducation publique et privée. C'est un ouvrage qui est le ferment du féminisme belge, on peut le considérer comme ça ou...
En tout cas, le féminisme belge se différencie peut-être d'autres, mais est extrêmement important dans sa première phase, parce qu'il associe l'éducation des femmes à leur instruction. Mmh. Une femme ne pourra être émancipée que si elle est éduquée, que si elle reçoit une instruction. Et Zoé de Gamont est vraiment la première à mettre cette association en avant.
Alors ce qui est étonnant, et en même temps ça ne l'est pas tant que ça, parce qu'il faut bien sûr se remettre dans le contexte de l'époque, c'est que Zoé ne croit pas tellement, enfin elle ne croit pas tout à fait à l'égalité parfaite entre hommes et femmes.
Ah non, pas du tout. Pour elle, l'égalité n'est pas possible en soi. C'est pas une égalité réelle. Ouais. La femme doit avant tout être une mère et une épouse. Donc attention, c'est pas encore en féminisme comme on le verra par la suite. Mais néanmoins, elle croit que les femmes doivent être éduquées pour devenir peu à peu l'égale de l'époux. Mmh.
Elle insiste sur les bienfaits notamment de l'artisanat. Pour elle, c'est que ça semble être le terreau de l'épanouissement de la femme.
Oui, c'est là où la femme pourrait s'accomplir le mieux dans une profession où elle travaille également, mmh. évidemment, mais où elle est aussi à domicile. Donc cette idée que là, elle pourrait un peu être reine de son foyer, mais aussi de son industrie, de son art.
Alors on va voir qu'elle s'intéresse aussi, bien sûr, à toutes les tranches hein, de couches sociales de la population. Nous sommes avec Valérie Piette, on évoque le parcours de Zoé Gatti de Gamont.
Debout, debout ! Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt !
Je ne mords pas les lèvres !
Vous ne se mettez pas le doigt dans les oreilles !
Ni dans la bouche !
Ni dans quelle contrepartie
du visage !
Les lisses baissés, les genoux serrés, faites de la dentaire, faites de l'aquarelle, de la pâtisserie, de la tapisserie, mais n'allez pas surtout courir de guillotou avant de prendre.
Avec toujours ce spectacle, l'éducation des jeunes filles. Nous sommes avec Valérie Piette. Alors, Zoé Gatti de Gamont ne va pas s'intéresser qu'aux artisans, on le disait. Elle s'intéresse à toutes les couches sociales, surtout, bien sûr, les plus pauvres. Alors, il faut réformer, bien sûr, le système éducatif et les mœurs, mais c'est les hommes, bien sûr, qui réforment les lois. Donc, comment va-t-elle s'y prendre, Zoé ?
Ben, elle va s'y prendre en proposant un système éducatif pour les filles, pour les femmes d'ailleurs aussi, pour les femmes ouvrières et pour les femmes de la petite bourgeoisie. Et puis, elle va tenter de mettre ses idées en pratique, en fait, elle-même.
Alors, comment est-ce qu'elle s'y prend pratiquement? Elle fonde des écoles.
Elle fonde en 1835 deux écoles. Elle ne les fonde pas seule, évidemment. Ouais. Elle s'entoure de ses amies, de ces fameuses femmes révolutionnaires progressistes autour d'elle, et de son mari, qui donnera d'ailleurs des cours de dessin. Et donc, elle va véritablement fonder deux écoles, et elle va chercher des moyens, avec les siens évidemment, pour pouvoir fonder ces deux écoles.
Alors une première école pour les tout jeunes enfants, hein, de 2 à 6 ans, dans le but de les familiariser aussi avec l'idée de Dieu, parce que là aussi c'est le contexte de l'époque, c'est une fervente catholique. Zoé.
C'est une fervente catholique, et qui le deviendra, j'ai envie de dire, de plus en plus, ouais. Où elle finira mystique, oui.
Une deuxième école pour les 6 à 12 ans, pour développer les capacités intellectuelles et l'apprentissage, l'écriture, la lecture, le calcul et les travaux manuels. Et puis alors à 12 ans, l'instruction se termine et là, c'est les parents qui prennent le relais, c'est ça?
Oui, c'est le système qu'elle veut mettre en avant, tout à fait. Oui, oui.
Et si les parents ne peuvent pas prendre le relais, elle a pensé aussi à d'autres moyens, des ateliers, des...
Oui, des ateliers, mais aussi d'autres systèmes scolaires qui peuvent venir soutenir en fait ce premier système jusqu'à 12 ans.
Parce qu'évidemment, le placement avantageux auquel elle pense pour ses jeunes filles, c'est là on reste dans la tradition, c'est coiffeuse, c'est lavandière, c'est tout ça.
Oui, elle pense, et en créant son école, elle pense aussi par la suite aux femmes ouvrières qu'il faut véritablement former pour leur donner la possibilité d'entrer dans le commerce, dans l'artisanat, donc c'est encore assez classique, mais néanmoins elle associe le technique et la culture générale. Mmh. Et ça, c'est fondamental. Et d'une certaine manière, ce sera un échec, son école, très rapidement. Mais cette idée d'associer cours techniques, professionnels et culture générale, il faut attendre 1865 à Bruxelles et l'école Bischofsheim pour qu'on voit enfin aboutir cette idée de manière très pratique.
Elle a aussi une idée particulière de la domesticité, au fond. Elle veut améliorer les conditions des domestiques en faisant quoi? Des membres de la famille à part
entière?
Tout
à fait, des membres de la famille. C'est cette idée aussi très fourriériste et très saint-simonienne, hein, d'encore social, ouais. Et que donc la formation de la domesticité, bien les former, ce qui est une idée qui va aussi perdurer bien longtemps, va permettre de placer réellement dans de bonnes familles ces domestiques qui feront partie de cette famille.
Alors elles pensent aussi aux moins nantis des plus nantis, et là elles ont une espèce d'objectif commun, ces jeunes femmes moins nantis dans les plus favorisées.
Tout à fait, c'est donc de trouver un travail, ouais. Et la seule fonction possible pour Zoé, encore à l'époque, mais encore pas mal de temps pour une femme de la petite bourgeoisie ou de la bourgeoisie, c'est l'enseignement.
Ouais. Ce qu'elle fait en fond, c'est quoi? Rallier le privé et le public, Zoé Gatil-Gamont?
C'est une idée qu'elle a beaucoup développée dans ses écrits, hein, c'est de pouvoir véritablement rallier ces deux sphères, le privé et le public, et donc c'est un très bon exemple de l'enseignant, ouais. Évidemment aussi.
C'est donc la communauté et la famille quand même qui restent le socle, hein.
Tout à fait. Pour Zoé, mettre en cause la famille, c'est impensable.
Ouais. Voilà, Zoé Gatil-Gamont, nous sommes avec Valérie Piette.
Une folle gaieté régnait pendant nos récréations. Une folle gaieté régnait pendant nos récréations. Tu es Nathalie?
Oui.
Non. Olivier aussi?
Oui, monsieur.
Ouais. Une moitié des élèves jouaient aux billes à l'ombre des arbres. Une moitié des élèves jouaient aux billes à l'ombre des arbres. D'autres jouaient au cheval. Point.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Sur la première.
À l'éducation en question ici avec Nicolas Philibert, hein, qui s'était rendu dans un petit village français pour ce documentaire Être et Avoir. Alors Zoé Gatil-Gamont est le personnage de cette émission avec Valérie Piette. Quelques réactions positives aux propositions de Zoé, comme dans le journal Le Libéral, un journaliste écrit: je vous le dis, si les femmes avaient un jour la place publique ou la tribune, elles feraient plus pour notre condition que nos héros de l'émeute ou les victimes de Sainte-Pélagie. Il y a en elles foi dans l'avenir, et en nous, il y a doute même de ce qui est. Est-ce que cette réaction, Valérie Piette, rend bien compte de autres réactions?
Oui, en tout cas, dans le milieu libéral. Il est clair que là, il y a des attaques par rapport au monde catholique. Et donc, les libéraux voient se développer ce type d'initiative d'un bon œil, puisqu'il y a l'initiative de Zoé, mais il y en a d'autres encore plus privées. Hein. Il y a quand même des pensionnats privés pour jeunes filles à Bruxelles de manière relativement importante, mais pour la bourgeoisie. L'idée quand même qu'une femme doit peu à peu être éduquée, parce qu'aussi un homme libéral doit avoir une épouse digne de lui. Mmh. C'est quand même une idée qui commence à germer, mais qui deviendra extrêmement importante dans la deuxième partie du 19e siècle.
Beaucoup de sarcasme aussi aux initiatives de Zoé.
Oui, beaucoup de sarcasme, parce que dès qu'il y a eu, on ne parle pas encore de féminisme à l'époque, hein, mais enfin, dès qu'il y a eu un proto-féminisme, il y a toujours eu un anti-féminisme, ça va de soi dans l'histoire jusqu'à nos jours. Et donc, elle va être traitée de bas bleu, hein, il n'y a rien de pire pour une femme à l'époque que d'être traitée d'intellectuelle, d'une certaine manière, puisqu'elle écrit, elle pense, elle tient salon, et donc, oui, il y aura des critiques, notamment d'une presse satirique.
Ce bas bleu, il fait référence à quoi ?
À ces femmes qui ont auraient bien d'autres choses à faire, c'est-à-dire à tricoter, à s'occuper de leur bas notamment. Mais le bas bleu, c'est vraiment le bas intellectuel.
Mmh. Alors, Zoé et une amie d'ailleurs, Eugénie Poulet, elle est importante aussi. Elles vont passer donc à la pratique, ouvrir deux établissements pour jeunes femmes, qu'elles vont diriger d'ailleurs, on est en 1835 là. Zoé donne des cours de littérature française, de composition, d'italien. Les cours sont gratuits, ils sont donnés par les femmes. Il y a un certain succès, mais surtout aussi beaucoup de difficultés.
Il y a beaucoup de difficultés parce que c'est pas subsidié. Enfin, il y a pas de moyens en fait du tout. Et donc elle en cherche un peu partout. Et au bout d'un moment, même s'il y a un succès, notamment pour son école pour femmes de la classe ouvrière, elle va devoir jeter l'éponge.
Elles font appel à la reine aussi. Hein,
oui, elles font appel à la reine. Et il ne faut pas oublier, Zoé de Gamont va toujours jouer, et Isabelle par la suite aussi, va toujours jouer sur la réputation du nom de famille, sur de Gamont, et donc sur le réseau évidemment. De son père.
Famille qui va être en quelque sorte déclassée, on va le voir avec vous, Valérie Piette. Alors pour Zoé, cette expérience, elle va être assez éphémère. Hein. Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a plus les moyens. C'est un désastre financier, elle a un peu tout mis là-dedans. Il y a un succès, mais relativement mitigé, et donc elle jette l'éponge.
Et puis elle part aussi. Est-ce qu'elle part parce que c'est un échec ou c'était prévu ce voyage à Paris ?
En partie, parce que Zoé a déjà été plusieurs fois à Paris, elle y